Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion les mercredis, 11h, sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ouais, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes mercredi 6 mars et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette belle journée qui commence. Et aujourd'hui, on reçoit l'humoriste Sébastien Haché, suivi de notre chroniqueur mouvements sociaux Christian Nadeau. Et pour finir, nous aurons en entrevue la journaliste Anne-Sophie Gravel pour parler du traitement médiatique des féminicides. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, plus d'un cinquième des installations hébergeant des enfants sous la protection de la jeunesse sont dans un état de vétusté important au Québec. C'est le cas notamment à Laval, où certains locaux ont l'apparence de cellules de prison, selon la presse. Plusieurs intervenants de ces centres ont dénoncé le caractère inadapté et déshumanisant de ces centres pour les enfants qui y vivent. Et ensuite, Montréal veut avancer son grand ménage de printemps. En raison des températures élevées actuelles, les déchets contenus dans la neige ont ressurgi plus tôt que prévu. La ville essaye donc d'accélérer la livraison de balais de rue pour la mi-mars et de penser à des mesures pour alterner le stationnement prévu seulement pour le 1er avril. En attendant, les élus appellent les Montréalais à nettoyer devant chez soi pour donner l'exemple. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'humoriste Sébastien Haché. Je reçois ce matin l'humoriste Sébastien Haché pour parler de son nouveau spectacle Tiré à blanc. Bonjour Sébastien.
Allô.
Tu démarres en 2024 l'Infertilitour pour présenter ton nouveau spectacle partout au Québec. Comment tu te sens quelques jours avant le lancement?
J'étais bien excité. Mm-hmm. Ça commence. C'est beaucoup de travail. C'est plusieurs semaines de travail pour réussir à mettre tout ça en place, qui n'est pas encore fini parce qu'il y a encore des dates qui sont en train de se confirmer tranquillement pas vite pour l'automne. Fait que bien excité.
Mais donc, tu te lances samedi à Montréal pour ceux qui vont être intéressés par ton spectacle, parce qu'on a commencé à comprendre un peu le thème de ce nouveau one-man show intitulé « Tiré à blanc, c'est l'infertilité ». J'en profite que tu sois désormais un expert pour te demander c'est quoi l'infertilité, Sébastien.
Oui, Sébastien Haché, influenceur numéro un au niveau de l'infertilité au Québec. Qu'est-ce que c'est l'infertilité? Ben, théoriquement, c'est l'incapacité de faire un enfant après un an d'essai. Mm-hmm. C'est ça, mettons que si j'étais un médecin là, avec plein de beaux diplômes, c'est ça que je vous dirais. Mais essentiellement, c'est de ne pas être capable de se reproduire ou de ne pas être capable de le faire dans un délai jugé raisonnable pour certaines personnes. Fait que c'est un peu pas clair, mais en fait, c'est pas être capable de réussir à faire un enfant. Mm-hmm. C'est de façon très simple, ça serait ça.
Et donc, c'est le point de départ de ton spectacle. Ouais. Quelle était ta situation à toi pour bien comprendre un peu le contexte?
Bien, moi, en fait, là, si on part de loin, là, j'ai une glande qui ne fonctionne pas. Mon corps, il ne fait pas de testostérone. Là, je sais, les gens, ils m'écoutent, ils font tabarouette, il y a une belle grosse voix virile, puis tout. Mais bon, il y a eu bien des injections là, d'impliquer là-dedans. Puis bon, ça a causé que mon corps, il ne fait pas de spermatozoïdes par la suite. Bon, ce qui fait que là, quand il est venu le temps d'avoir un enfant, c'était quand même un ingrédient, somme toute, important dans la recette pour faire un enfant. Puis, donc là, il a fallu consulter tout ça. Moi, ça a été des injections, 4 ans là, d'injection tous les 2 jours là, pour réussir à faire des spermatozoïdes et réussir à faire un enfant au bout de 6 ou 7 inséminations, si ma mémoire est bonne.
Et un parcours de 4 ans, c'est ça?
Oui. Parce que
ce parcours, tu le racontes donc en clinique de fertilité, ton parcours en cheminement mental aussi, et puis aussi les traitements subis, tu viens nous le dire. Ouais. Comment on écrit des blagues à partir d'une situation personnelle compliquée, voire parfois tragique?
Ouais, ben en fait, ça m'aurait... Tu sais, moi, le spectacle, il s'est écrit un peu au fur et à mesure de tout ça. Tu sais, je me suis pas levé un matin, j'ai écrit un spectacle là-dessus. J'ai écrit des numéros au fur et à mesure que je vivais tout ça. Ça me servait un peu d'exutoire, en quelque sorte, tu sais. Évidemment, pour la scène qui a resté, c'est les moments les plus drôles, les plus drôles réflexions, tout ça. Mais s'il y a des bouts quand j'écrivais que c'était pas drôle, c'était juste triste, j'étais juste fâché ou telle, telle situation. Bon, évidemment, ça a été mis de côté pour le côté humour. Mais l'humour, c'est quand même proche de la tragédie, tu sais, ce qui... Les émotions qui sont les plus réelles, les plus vraies, ben c'est ça qui fait le plus rire les gens, parce que les situations les plus personnelles sont les plus universelles, au final, tu sais, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui vit de l'infertilité, mais tout le monde, ou presque, dans la vie, va finir par se reproduire à un moment donné ou un autre. Puis, bon, c'est quelque chose auquel on peut s'attacher, auquel on peut... j'ai juste le mot en anglais, là, mais « relate », évidemment, parce que je suis très anglophone.
Oui, ça s'entend. t'as donc écrit pendant tout ton parcours, mais à quel moment tu t'es dit que t'allais en faire, tout simplement, un spectacle, ton cinquième one-man show?
Ouais, peut-être, je dirais, peut-être un an. Quand j'ai fini d'écrire le dernier, le numéro, là, à propos de ça... j'ai fait tout ce processus-là est documenté là, sur 4 ans. Je dis pourquoi je ne mettrais pas tout ça ensemble, créer un spectacle. Puis je me suis attelé à cette tâche-là, tranquillement, pas vite. Ça a été quand même du travail parce que, bon, les premiers numéros dataient de quand même quelques années. Là, c'était pas au standard Sébastien Haché 2024. Tu comprends? J'étais au standard, évidemment. Puis donc, il a fallu retravailler tout ça. Ensuite de ça, il faut mettre tout ça ensemble pour créer une espèce de ligne directrice pour que ça suive, pour que le spectateur il comprenne, parce que ça reste, somme toute, une histoire un peu complexe. De mon affaire de pas de testostérone, les gens, ils sont souvent dépassés. Ils sont comme,
on les a perdus.
Puis là, on fait juste commencer, tu vois. Il ne faut pas les perdre au début.
Et justement, est-ce que la démarche d'écriture, elle est différente? Comme c'est un sujet qui est complexe et personnel, est-ce que tu as fait des choses différentes comparées à tes derniers spectacles?
Ben, est-ce que j'ai fait des choses différentes? Je penserais pas, non, en fait. Je l'ai vraiment attaqué comme les shows précédents, en fait. C'est vraiment plus dans l'écriture, là. Tu sais, je dirais le premier jet qui est différent là, au niveau de l'écriture. Là, je dirais pas que c'est plus difficile à écrire. Par contre, ça vient plus en flash, en fait. Tu vis quelque chose, puis moi, mon moteur de création, c'est beaucoup l'espèce de dépassement de, ben voyons, cette situation-là, aucun sens, c'est absurde. Mais veux pas... quand tu vis ce genre d'affaires-là, ben, y a beaucoup de choses qui te dépassent parce que c'est pas quelque chose que tu vis normalement au quotidien. Fait que je sortais ça, j'écrivais, bon, des fois, c'était pas drôle, mais maintenant, ça popait dans la douche. Je peux l'attaquer comme ça, puis là, ça pourrait devenir drôle, c'est de faire ressortir tout le niaiseux puis l'absurdité de cette situation-là, tu sais, puis... fait que moi, non, le show, j'ai pas attaqué différemment. Ça a été plus au niveau de l'écriture au début, là, que c'était différent.
Et donc, c'est un sujet qu'on peut qualifier de plus personnel que tes autres spectacles, même si, comme tu le dis, les humoristes parlent tout le temps d'eux. Est-ce que ça a pu être compliqué de se révéler autant devant un public?
Ben oui, les premières fois, je pense, oui. Tu sais, maintenant, là, je suis comme habitué, là, j'ai géré ça. Là. Mais oui, effectivement. Puis, étonnamment, quand je faisais ces numéros-là, là, de façon individuelle, à gauche, à droite, là, dans des soirées d'humour... dans les bars, les comédie clubs, tout ça, il y avait vraiment une espèce d'écoute spéciale qui s'installait. Là. Même quand je fais plus long parfois, puis j'intègre un de ces numéros-là dans une espèce de petit show random, là, des sujets un peu disparates. Là. Aussitôt que j'embarque là-dedans, il y a vraiment une espèce de calme, de silence qui s'installe dans la salle. Tout le monde devient très attentif. Ça crée vraiment quelque chose de spécial. Fait que le show, il va vraiment chercher ça aussi. Là. Il y a vraiment quelque chose, il y a une espèce d'attention, une tension peut-être même, malgré que je le désamorce quand même bien, parce que ça reste que le but, c'est de faire des blagues. Là. Oui. On n'est pas là pour jouer du violon, c'est sûr qu'on est donc bien triste. Fait que oui, ça crée vraiment quelque chose de spécial dans la salle, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant, tu sais. Veux pas, là, quand t'es plus jeune comme humoriste, là, tu parles de « Hey, vous souvenez-vous, au secondaire, les grosses galettes? » C'est ce qui est, somme toute, pas quelque chose de très personnel. Mais en vieillissant, on dirait que tu veux t'attaquer à ces choses-là. Même que, là, après avoir tout écrit ce spectacle-là, là, sur des années, on dirait que maintenant, j'ai un peu de misère à retourner dans des trucs un peu plus, je dirais, légers, faciles d'accès. « Hey, les chemises rouges, c'est rigolo, tu sais. » Présentement, je suis en train de travailler un numéro sur mon papa qui est malade. Je sais pas si je vais devenir un...
T'es rendu un humoriste adulte, en fait, peut-être, avec ses problèmes d'adulte.
Dieu. Ah, regarde, c'est bien fait.
Je te l'apprends.
Ah, wow. Je suis rendu un adulte, merci.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, personnellement, d'écrire un spectacle d'humour sur ces 4 ans d'acharnement? Je pense, est-ce que t'as relativisé, dédramatisé? Est-ce que ça a été une sorte de thérapie personnelle?
Je fais toutes ces réponses, je dirais. quand vous allez chez le psy, tout le monde à la maison, là, souvent, ils nous disent de nommer nos émotions, nommer ce qui nous habite. Puis c'est ça que j'ai fait là, carrément sur papier pendant des années. Puis plus c'était chaud, plus c'était facile pour moi de l'écrire, plus ça venait, ça sortait drôle parce que c'était frais. J'étais encore choqué par ça, j'étais encore subjugué par cette situation. T'sais. Fait que... Ouais, c'est quoi la question? J'ai oublié.
Est-ce que c'était une sorte de thérapie personnelle?
Ah, ouais. Ah, oui,
je crois que la réponse est oui.
Mais oui, mais l'avantage, c'est qu'au lieu de payer 130$ de l'heure, c'est des gens qui payent pour venir me voir faire ma thérapie.
Exactement, c'est rentabilisé. L'infertilité masculine, notamment, elle est encore taboue. Toi, tu te demandes justement pourquoi ça rend tout le monde mal à l'aise. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Quelles sont les raisons à ce tabou-là?
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse si claire que ça. C'est beaucoup de petits facteurs, je pense, qui s'accumulent. Puis qui chaque personne en choisit inconsciemment quelques-uns là, à travers ça qui, eux, les rendent particulièrement mal à l'aise. T'sais. Pour l'infertilité masculine, principalement, je dirais que c'est malheureusement beaucoup de stéréotypes là, de monsieur là, qui sont « moi, je suis un vrai homme, puis j'ai des belles grosses gosses qui… » Oups, j'ai dit ça à la radio. Mais qui veulent être viril masculin, puis tu sais… Alors que ça n'a aucun rapport, là, selon moi, si tu es fertile ou non, si tu es un vrai homme ou pas, ça ne change rien. Il y a beaucoup aussi d'incompréhension, beaucoup de gens qui confondent infertilité et impuissance. Et ça touche fort les messieurs. J'ai fait, il y a quelques mois, un balado à audio de Radio-Canada qui parlait de ça. Et on a eu beaucoup de difficultés à avoir des messieurs pour venir en parler. On a réussi à en avoir quelques-uns, là, mais poutine interne, on est juste entre nous autres. Là. Ça a été très difficile. Il y en a qui se sont défilés en cours de route, à quelques jours d'avis. Je ne sais pas exactement pourquoi. On n'a pas réussi à mettre le doigt là-dessus exactement. J'aurais aimé ça arriver avec une belle réponse et vous dire « c'est pour ça, mais… » C'est
on associe la masculinité aux spermatozoïdes, j'imagine.
Ouais, la capacité de se reproduire et d'être un vrai monsieur. Parce que veut pas se reproduire, c'est un peu la raison qu'on est là sur la Terre. C'est instinctif de vouloir se reproduire. Puis quand on n'est pas capable de faire l'affaire la plus basique du monde, veut pas, c'est un peu, ça vient nous... C'est très challengeant, même si moi, je le savais, là, mais je me doutais que bon, ça se pouvait. Quand on me l'a confirmé, ça a été difficile, Fait que j'imagine pour quelqu'un qui n'est pas au courant puis que sa masculinité est très fragile, j'imagine que ça doit donner un méchant coup puis il ne veut pas en parler.
Et pourtant, un couple canadien sur six serait confronté à des problèmes de fertilité. Il n'y a pas que toi, je te rassure. Tu racontes notamment les personnes qui viennent te voir à la fin de tes numéros pour te confier leur récit d'infertilité, sûrement la première personne à qui ils en parlent. Ouais. Donc, on parlait de la thérapie personnelle pour toi, mais au fait, c'est aussi une grosse libération pour ton public.
Oui, je suis devenu un psy aussi par la bande à cause de ce genre d'affaires-là, tu sais. Puis c'est un peu ça qui m'avait fait faire le balado à la base, puis le spectacle aussi, dans le sens que à chaque fois que les gens ils venaient m'en parler, j'avais l'impression que c'était la première fois qu'ils en parlaient à quelqu'un depuis 12 ans, qu'ils gardaient ça en dedans. Puis je suis juste un humoriste avec un diplôme de technique d'intervention à loisir. Là. Je suis pas outillé pour aider ces gens-là. T'sais. Fait que je me suis dit, bon, si je peux servir de mon histoire pour en parler un peu, aussi, moi, ça me fait quelque chose de très unique là, à parler, là, d'un point de vue professionnel. C'est très intéressant. Fait que si je peux joindre les deux, l'utile et l'agréable, ça peut aider des gens, juste que moi, en parler, dédramatiser, faire des blagues là-dessus, puis que les gens se rendent compte que c'est pas la fin du monde, puis que ça peut arriver.
D'autres sujets délicats sont traités parfois avec humour. C'était le cas notamment lors de la soirée Profil Comique, qui a réuni le mois dernier plusieurs humoristes pour parler du profilage racial. Parmi eux, il y avait Eric Prysch qui disait que, bien que la cause soit dramatique, je considère qu'on peut rire de tout. Le drame, donc, c'est un très bon terreau d'humour.
Ben oui, parce que dans le fond, quand on écrit d'humour, ce qu'on veut, c'est provoquer une réaction, provoquer de la surprise. C'est aller chercher de l'émotion. Le rire est... Parce que je ne suis pas un spécialiste, mais le rire, selon moi, n'est pas très loin du drame. Dans notre cerveau, là, la carte de notre cerveau, les émotions, j'ai l'impression que ce n'est pas très loin. Puis c'est très agréable, ça rend beaucoup plus facile. Plus tu vas vers, par exemple, la gauche, mais plus facile de revenir avec l'élastique à droite facilement. Donc. Fait que oui, le drame, c'est un bon terreau, c'est très efficace. C'est pour ça que souvent, il y a comme dans les one-man shows, des petits bouts un peu tristounets. On va porter le public là-bas. Puis pour nous, c'est le fun d'être le chef d'orchestre de tout ça, puis de vous enligner, puis faire « oups, oups, je vous emmène là ». Puis finalement, non surprise, on est rendu de l'autre bord, on rit. C'est très agréable. C'est très, je dirais pas facile, mais très efficace, mm-hmm. en fait, humoristiquement.
Et justement, tu parles de cette navigation entre les différentes émotions. Je voulais te demander quel équilibre faut trouver dans ce genre de registre humoristico-dramatique. Comment on fait pour justement pour ne pas perdre le public dans des moments très sombres et ne pas le perdre notamment dans trop de rire, parce que ce n'est pas forcément le but du spectacle.
Je dirais que c'est bien gros le public qui décide, je pense, de ce genre d'affaires-là. Il faut l'essayer, il faut le faire, puis... Un moment donné, bien évidemment, chaque public, chaque soir, ne sera pas pareil, n'aura pas exactement la même réaction, mais à un moment donné, il faut que tu réussisses à l'avoir faite assez souvent pour trouver une espèce de moyenne que, bon, quand je suis à peu près ici, là, à 90 % du temps, je réussis à garder tout le monde. Mm-hmm. Inévitablement, si tu abordes des sujets un peu plus croustillants, c'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, les gens, dans leur vie, que peut-être que c'est arrivé ce matin, puis là, je leur en parle, puis ça brasse des affaires, on ne peut pas contrôler ça. Mais c'est vraiment le public qui décide. Moi, ma ligne est peut-être ici, mais pour la majorité des gens, la ligne est peut-être un peu plus loin ou un peu plus proche. Fait que c'est à voir. Tu sais, comme, pareil, je parlais encore de... Hier soir, je jouais au Terminal, justement, où le spectacle aura lieu samedi. Puis j'ai fait un numéro où je parle que mon papa est malade. Puis j'ai vraiment senti que je n'ai pas réussi à les récupérer 100 % là, hier soir. Là. J'ai dit, le public avait une ligne de tolérance par rapport à ça, un peu plus fragile. Ça a pris là, presque tout le numéro avant que je réussisse à aller les rattraper. Fait que là, tu vois, ça, il faut rajuster ça. C'est un numéro qui est encore en travail. Fait que là, je fais comme, il va falloir aller gratouiller un peu plus sur le bord un peu plus comique avant de se rendre au bout un peu plus...
Mais est-ce que trop de sobriété, c'est un spectacle raté? Est-ce que, je sais pas, 3 minutes sans rire, ce qui peut paraître énorme, c'est forcément un moment mauvais?
Je crois pas, en fait. Ça dépend de ce que tu recherches. T'sais. Si tu veux faire rire les gens à toutes les 3 secondes, c'est sûr que 3 minutes, c'est raté, effectivement. Mais si je me fie à ce qu'on voit, les humoristes américains les plus connus, qui marchent le mieux en ce moment, ils sont beaucoup là-dedans. Là. Il y a des très longs moments avant qu'il y ait un rire, parce qu'ils t'expliquent leurs points et tout ça. Fait que ça dépend juste de ce que tu veux faire, en fait. Mais il faut que tu sois capable, si tu veux faire de très longs moments avant qu'il y ait une blague, il faut que tu sois capable de le supporter comme humoriste. Parce que
oui, déjà.
Quand tu es un jeune humoriste, souvent, tu veux faire rire, puis aussitôt que le gens ne rit pas à ton goût là, où tu avais prévu, là, tu paniques un peu. Il faut juste que tu fasses... Ah, OK. Et avec le spectacle Tir à blanc, justement, on ne rit pas nécessairement à toutes les 10 secondes. Il y a des moments où il faut que j'explique un peu où est-ce qu'on est rendu, le processus, nanana. Fait que effectivement, c'est pas à se taper ses cuisses pendant 1h15. Hey, c'est pas vendeur, ce que je suis en train de dire là.
C'est ce que j'allais dire, mais on encourage quand même ceux qui nous écoutent
bon.
À venir.
C'est très bon, mais pour répondre à ta question, ce que je voulais dire, en fait, c'est que non, c'est pas obligé d'être punché à tous les corps de taux parce que ça reste intéressant.
T'sais. Bien sûr.
Mais c'est drôle, là, mon spectacle.
Mais je sais, et on te croit. C'est drôle, mais aussi instructif, et puis aussi philosophique. On ne vient pas juste pour rire.
Bien rattrapé.
Pour finir, tu es humoriste depuis plus de 20 ans, je crois. Ouais, un peu plus, ouais.
On pourrait dire ça, ouais.
On ne va pas compter, mais tu as participé donc à de nombreux shows comiques. Tu en es à ton 5e one-man show. Ouais. Est-ce que aborder le sujet de l'infertilité, toucher un registre d'humour différent, c'était aussi une manière de se renouveler?
Peut-être inconsciemment, oui, mais je t'avoue que...
C'était pas le but premier.
En fait, moi, au début, j'ai vraiment juste écrit ça pour en parler. C'est ça que je vivais, c'était gros dans ma vie. Fait que je veux pas, j'écris là-dessus, tu sais, c'est ça que je vis. Mais, ouais, comme tu dis, ça fait plusieurs années que je fais ça. Fait que je veux pas comme... Et tu l'as dit tout à l'heure, je suis maintenant un adulte.
Exactement.
Donc, fait que je veux pas, les sujets changent. Puis ça, je m'en ai vraiment rendu compte dans les dernières années. J'ai arrêté de faire des spectacles d'humour dans les écoles secondaires parce que... J'ai 38 ans, ce que je parle ne les touche pas
après,
du tout.
Après, parler d'infertilité au secondaire, pourquoi pas?
Mais... Ben, ils s'en foutent, tu sais. Fait que, Mané, j'ai vraiment senti, j'ai fait, ah, OK, là, je pense que je suis plus avec eux.
Il y a un écart qui s'est creusé.
Il y a un écart qui s'est creusé incognito. Puis, tu sais, les sujets que j'aborde, ils sont comme, ouais, OK, mais c'est intéressant pour mon père, mais je m'en fous, tu sais. Fait que, ouais, je suis devenu un adulte.
Très bien. Bon, à part les élèves du secondaire, on encourage tout le monde à aller voir ton spectacle. Ça se passe ce samedi à Montréal, au Terminal Comedy Club.
Tout
et puis
fait.
Après, partout au Québec en 2024.
Exactement.
Et puis, il y a aussi le podcast Tiré à blanc, disponible sur Audio, la plateforme de Radio-Canada, pour approfondir un peu plus le sujet avec toi.
Voilà.
Qu'on veuille rire, pleurer ou réfléchir.
Le spectacle, c'est un peu la même histoire. Que le balado, on part de mon histoire. Par contre, le balado est vraiment axé sur les émotions que ça fait vivre, vraiment plus le côté humain, alors que le spectacle est vraiment plus dans le côté de l'absurdité de la chose, puis on met l'accent sur qu'est-ce qui est drôle.
Très bien. Merci beaucoup, Sébastien, et puis bonne infertilité.
Ça fut un plaisir. On se croise sur les routes, évidemment.
Bien sûr. On continue sur CIBL avec la chronique de Christian Nadeau sur les mouvements sociaux.
devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires sous le signe des moustiquaires. On a
les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
C'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à contes. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
Chat d'avance. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
Je suis à présent avec notre chroniqueur Christian Nadeau pour parler de mouvements sociaux. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on parle d'un sujet nouveau parce qu'il faut se renouveler après 4 mois de chronique, celui de la désobéissance civile et du recours à la violence.
Oui, alors jusqu'ici, j'ai parlé des mouvements sociaux dans une perspective qui était, disons, dans un cadre juridiquement acceptable, nous pourrions dire cela d'une certaine manière. Et évidemment, ça peut donner l'impression que les mouvements sociaux ne sont légitimes que si et seulement si ils sont conformes à la loi. Or, ce n'est pas le cas. On peut très bien avoir une légitimité, enfin au moins une légitimité morale, une légitimité politique, sans pour autant s'inscrire dans le cadre de la loi.
Mmh. Alors, désobéissance civile, recours à la violence, est-ce que c'est la même chose ou c'est deux catégories distinctes ?
C'est vraiment deux catégories distinctes. Quoique maintenant, disons en philosophie politique, là, sans entrer dans des débats techniques, ce qui était auparavant vu comme un paradigme justement lié à, disons, un mouvement non-violent, c'est-à-dire celui de la désobéissance civile, tend à s'étendre d'une certaine manière. C'est-à-dire on considère maintenant que une désobéissance, d'une part, peut être incivile, donc se situer en dehors du, disons, du spectre de ce qu'on appelle la civilité, c'est-à-dire bon, un rapport citoyen qui serait non-violent, qui serait, disons, dans le but de transformer une partie de la société, et ainsi de suite. Là, ça serait plutôt l'idée selon laquelle, en fait, il existe des formes de violence qui sont légitimes. Par exemple, on pourrait supposer que si des gens s'enchaînent, par exemple, à des immeubles et qu'il y a bris de matériaux, d'une fenêtre, etc., bon, bah, c'est conforme, en fait, au geste de désobéissance civile. Ce qui compte, en fait, avec l'idée de désobéissance civile, c'est que les personnes sont conscientes du fait qu'elles agissent contre la loi, mais c'est justement le fait d'agir contre la loi qui est l'outil en fonction desquels on va contester soit la loi qui les empêche de faire ce qu'ils font, soit une autre loi. Par exemple, on pourrait supposer qu'il y a des lois qui interdisent les manifestations et des gens vont manifester contre cette loi. Donc à la fois, ils manifestent, ils font un geste illégal, mais en même temps, ils font un geste illégal contre une loi qu'ils jugent justement illégitime. Mais on pourrait aussi supposer que parfois, dans certains cas, des gens vont faire un geste illégal, non pas parce qu'ils veulent contrevenir à la loi qui les empêche, par exemple, de manifester ou qui les empêche de se rassembler dans un lieu, mais plutôt parce que, je sais pas, ils veulent contester, par exemple, un autre projet de loi. Je sais pas, imaginons que ce soit un projet de loi relatif à l'éducation, à la santé publique, et ainsi de suite.
Est-ce qu'il y a de la violence dans la désobéissance civile ?
Alors justement, c'est-à-dire que on peut, dans certains cas, on va juger que parce que la désobéissance civile doit rester civile, c'est-à-dire que même si on contrevient à la loi, le but est de rester dans des cadres sociaux qui seraient acceptables par tous et toutes. Acceptable, encore une fois, ne veut pas dire conforme à la loi. C'est simplement dire que, par exemple, il y a quelque chose qui on ne va pas favoriser, disons, une désapprobation de la part du public. Mais d'autres vont dire que, en fait, il faut être très prudent par rapport à de telles restrictions, parce que sinon, ça voudrait dire en fait que la désobéissance civile, même si elle est encore une fois illégale, se fait avec des, disons, des paramètres de civilité tellement restrictifs qu'en fait, il ne reste plus beaucoup d'espace pour la contestation. Mmh. C'est-à-dire, donc des gens vont dire, ben, on peut aller, il y a des formes de violence à l'égard, par exemple, des biens matériels qui sont tout à fait acceptables. Par contre, il va souvent avoir une espèce de, comment dire, de grande méfiance à l'égard d'une violence, notamment à l'égard des individus, évidemment, mais aussi d'une violence délibérée à l'égard des biens matériels, encore une fois. Donc, c'est un peu comme si le débat disait, ben, on peut très bien supposer qu'il peut y avoir des formes de violence collatérale, d'une certaine manière, mais pas une violence qui vise directement à détruire, oui, un objet. Ou, bon. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de mouvements sociaux qui, eux, méritent d'être qualifiés comme tels et qui, en même temps, ne restent pas dans le cadre strict de ce qu'on appelle la désobéissance civile, même celle qui autoriserait, par exemple, des formes de violence. Je pense, par exemple, à ce qu'on pourrait appeler les émeutes urbaines, en fait. Donc, aux États-Unis, par exemple, à la suite de George Floyd ou à nombreuses autres personnes de personnes noires qui ont été assassinées par la police, on a assisté à des émeutes urbaines et la manière de les qualifier, règle générale, par les autorités, c'est d'y voir justement des émeutes, c'est-à-dire rien, aucun contenu politique en tant que tel. Alors qu'en fait, ce sont des mouvements de soulèvement politique. Mm-hmm. Et on devrait les considérer, même si ce sont des mouvements politiques qui vont, à dessein ou non, utiliser des formes de violence et même des violences à l'égard des personnes, ce sont des mouvements de résistance politique et des mouvements de protestation politique.
Et c'est ce que vous avez mentionné dans l'introduction, c'est que les mouvements sociaux sont vus comme forcément pacifiques et qu'on tend à enlever la légitimité à toute violence. Mais vous, vous dites justement que la violence peut être politique, que les émeutes, comme elles sont qualifiées par les médias, sont politiques et portent des revendications.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans certains cas, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment... C'est un peu comme si à chaque fois on déplaçait le spectre. Hein. Donc au départ, c'est un peu comme de toute notre chronique, c'est de dire que la démocratie, c'est pas simplement au moment des urnes, qu'il y a des lieux où la démocratie s'exprime, notamment par les mouvements sociaux. Ensuite, on déplace de nouveau le spectre parce qu'on dit, oui, mais attention, les mouvements sociaux, la démocratie, ce n'est pas seulement dans les urnes, c'est dans les mouvements sociaux, mais à la condition que les mouvements sociaux, d'une certaine manière, soient des adjuvants vers les urnes. C'est-à-dire qu'ils restent dans un cadre de démocratie représentative. En fait, c'est un peu comme si on faisait pression sur les élus. Alors d'autres vont dire, non, en fait, on fait pression sur la société parce que c'est le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il n'est pas uniquement dans les élus qui ne sont que, finalement, des manifestations de
la volonté, disons,
de volonté de la société. C'est cette société qu'il faut changer. Donc on déplace de nouveau le débat. Et là, il peut y avoir des formes de désobéissance civile qui vont avoir recours à la violence, mais il peut y avoir aussi, comme on le disait, des formes de manifestations spontanées, notamment suite à des gestes de brutalité policière, et qui, même si elles sont spontanées, même si elles ne sont pas nécessairement organisées, sont néanmoins des formes de revendications politiques totalement légitimes, même si les groupes usent consciemment ou non de violence. C'est-à-dire que la violence, dans ce cas-là, n'est pas simplement collatérale. Elle est vraiment dirigée, par exemple, je sais pas, dirigée contre des biens meubles ou par exemple, je sais pas, contre des ressources de la police, je sais pas, des voitures de police, ce genre de choses.
Et comment l'opinion publique voit-elle ce genre de manifestation, la désobéissance civile ou encore la violence politique? Quel est son avis là-dessus?
Je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier, ce serait celui qui serait inspiré par, disons, la démocratie représentative. Donc, en gros, des personnes élues qui vont condamner ce genre de geste parce qu'elles veulent s'approprier, en fait, à la fois, disons, les pouvoirs politiques et jugent que les citoyens et les citoyennes, leur ayant transféré ces pouvoirs, devraient simplement se contenter de leur travail. Il y a aussi toute la question de l'usage légitime de la violence. Les personnes élues vont juger, en fait, que l'usage légitime de la violence, c'est par les institutions de l'État. Et ce genre de vision des choses, qui va voir, par exemple, des émeutes essentiellement comme... finalement, des gestes criminels, en fait, se transfèrent aussi à la société. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui va penser exactement de la même manière que les élus vont penser. Bon. Ensuite, je pense que ça dépend du type, d'incident, avec d'énormes guillemets, qui vont provoquer, par exemple, des violences urbaines comme des émeutes. Dans le cas de violences raciales de la part de la police, là, il y a une très grande partie de la population qui risque d'être beaucoup plus sensible, en fait, aux revendications des personnes qui vont participer aux émeutes, parce qu'elles elles sont les témoins d'une injustice flagrante. Mmh. J'ai l'impression, par contre, aussi que ça crée des clashs à l'intérieur de la société. Donc, ce n'est pas vrai de dire que la société, dans son ensemble, va rejeter tout ça en disant, ben, finalement, ce n'est pas de la politique, ce n'est que du banditisme. Mmh. Un peu comme, par exemple, on l'a vu au moment des émeutes en banlieue en France. Mmh. Y a une partie de la population qui dit, ouais, mais il y a un vrai problème. Il y a vraiment des choses qui sont totalement légitimes dans ce que les jeunes vont faire. De l'autre côté, bah, évidemment, il va y avoir toute une classe qui, généralement à l'abri des problèmes soulevé par les émeutiers, va juger ces émeutiers comme essentiellement justement des émeutiers, c'est-à-dire du banditisme, de la petite criminalité ou de la criminalité à grande échelle, peu importe. Mm-hmm.
Dans tous les cas, on ne peut pas généraliser l'opinion publique, mais on voit, comme vous dites, une sorte de scission entre ceux qui rejettent totalement cette violence et quand même une partie qui adhère à cette violence. Donc on peut dire que la désobéissance, la violence, est utile d'un point de vue démocratique parce qu'elle fait circuler les idées, elle fait émerger de nouvelles revendications.
Elle fait émerger des nouvelles revendications, et puis je pense qu'elle est en elle-même, dans certains cas, faudrait le voir un peu, disons, sans parler de guerre civile évidemment, mais un peu comme des formes de résistance en fait. Donc, et des formes de résistance légitimes. Mmh. Donc il y a agression, il y a résistance, et après, bien sûr, on pourrait qualifier ces gestes de résistance comme non légaux. Je pense que la plupart des gens qui vont commettre ces gestes le savent, et l'idée est justement de défier les autorités en défiant la loi pour démontrer quelque chose. Dans certains cas, il s'agit peut-être pas, disons, de tout simplement, disons, provoquer le débat. Ça serait, je pense que pour bon nombre, lorsqu'on en est au recours à la violence, on n'en est plus à l'étape de vouloir provoquer le débat, en fait. Mmh. C'est plutôt de dire, mais enfin, ceci est inacceptable, point barre. Donc, il faut qu'on prenne les mesures pour que ça ne se reproduise plus. En fait, il faut lancer un avertissement que « not on your watch », ça, on ne le tolérera plus. Mm-hmm. C'est un peu le sens de la phrase de James Baldwin quand il écrit « the next time the fire ». Écoutez, où voulez-vous que nous allions, en fait? Mm-hmm. À quoi vous attendez-vous d'autre qu'à des formes de réaction comme celles qu'on a vues, par exemple, aux États-Unis?
Et est-ce que ces manifestations de violence seraient pas la conséquence d'un manque de démocratie, d'un manque d'écoute ? Et on pourrait prendre le problème à l'envers, au lieu de dire que ces violences ne sont pas démocratiques. En fait, elles sont le résultat de quelque chose qui n'est pas démocratique.
Oui, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Merci, je vais la retenir. parce qu'effectivement, on pourrait vraiment y voir quelque chose comme une forme de carence au niveau de la démocratie elle-même, ou en tout cas d'une vision de la démocratie qui ne se limite pas, encore une fois, au résultat des urnes, c'est-à-dire un principe d'égalité démocratique. À partir de ce moment où cette égalité démocratique est remise en cause, en fait, c'est la démocratie qui s'attaque elle-même d'une certaine manière. Et les émeutes seraient peut-être une façon, en fait, de revendiquer cette égalité démocratique. Ça m'apparaît tout à fait juste, oui.
Au Québec, quel genre de désobéissance civile on peut voir? Est-ce qu'il y a des épisodes récents de violence? Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'on observe régulièrement comparé à la France ou aux États-Unis.
Ce qu'on a vu, les cas les plus flagrants, évidemment, c'est 2012. Mm-hmm. Là, il y a eu des gestes de désobéissance civile.
Pour le printemps érable.
Pour le printemps érable. Là, ça, c'est évident. Et dans certains cas, on a vu des gestes de violence politique qui ont été d'ailleurs, qui ont fait l'objet de débats à l'interne, notamment parce qu'on demandait aux organisations étudiantes de condamner ces formes de violence qui, en fait, ont toujours été contre des biens matériels. Alors qu'inversement, on n'arrivait pas à condamner le recours à la violence par la police, ce qui a donné lieu pour au moins deux personnes à la perte d'un œil, dans des blessures très graves. Enfin, on compte le nombre de cas de personnes qui ont été... Il faudrait d'ailleurs un jour qu'on revienne sur cet épisode, juste sur l'épisode, la systématisation de la brutalité policière en 2012. Je dirais que du côté de la désobéissance civile, les actes ponctuels qu'on voit le plus fréquemment, c'est du côté des militants et des militantes environnementalistes, en fait. Mmh. Donc là, par exemple, s'enchaîner à un pont ou empêcher la circulation sur une voie routière à heure de grande affluence, ce genre de choses. Mais là, encore une fois, les gens savent très bien que... Ils désobéissent à la loi, mais désobéir à la loi n'est pas nécessairement dirigé contre cette loi, mais pour forcer une prise de conscience d'un problème, et puis aussi de dire que nous sommes prêts à remettre en cause, disons, une certaine stabilité politique au nom du respect des lois. Nous sommes prêts à remettre en cause une telle chose parce qu'il y a un principe supérieur qui le demande, par exemple la protection de l'environnement. Mmh.
Merci beaucoup, Christian, pour cet angle nouveau, très intéressant. Ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle chronique spécialement sur les désobéissances. On va passer à une chronique mensuelle. J'espère que nos auditeurs auditrices ne seront pas trop déçus, mais ça vous permettra de faire des chroniques encore plus poussées et approfondies, je l'espère. Merci beaucoup, Christian, et puis on se retrouve le mois prochain.
Merci beaucoup.
On continue sur CIBL avec l'entrevue de la journaliste Anne-Sophie Gravel pour parler du traitement médiatique des féminicides.
C'est la faute au gouvernement. Si les gens ne sont pas contents,
c'est la faute
au gouvernement. Si nos enfants ne sont pas charmants,
c'est la faute
au gouvernement. S'il n'y a jamais de changement,
c'est la faute
au gouvernement.
C'est la faute.
Mon réveil n'a pas sonné, personne n'a pensé à le régler. Je suis encore en retard, je dois courir mais il y a trop de monde sur le trottoir. Je veux bien me dépêcher mais le taxi est coincé, il y a trop de trafic, ça a vraiment mal été pensé. Rien ne marche, rien ne fonctionne et on dirait que c'est la faute à personne.
C'est la faute
au gouvernement. Si je suis en retard maintenant,
c'est la faute
au gouvernement. Si demain il n'y a jamais de changement,
c'est la faute
au gouvernement.
Oui, la faute, c'est la faute.
Moi j'aime qu'on m'apporte mes emplettes. Je commande de l'eau en bouteille sur internet. Y'a trop de plastique dans mes déchets, mais personne ne vient pour les trier. Où sont ceux qui veulent se donner la peine et se mettre à travailler? Alors qu'il n'y a plus de magasins à côté de chez moi, ils ferment tous mais personne ne fait rien. Au gouvernement, si je ne marche plus maintenant, on n'a plus de commerçants,
c'est la faute
au gouvernement. S'il y a du plastique dans les océans,
c'est la faute
au gouvernement. Mais qui sont-ils? Mais que font-ils? Personne ne s'occupe de moi.
Les élections. Écoutez-moi, je ferai ce que vous voulez. Votez pour moi, je ferai ce qui me plaît.
Avec moi, pas de contraintes, pas de problème. On fera tout comme avant, on fera tout comme on aime. Alors pourquoi il y a encore des mécontents? J'entends des gens qui disent comme avant.
C'est la faute
au gouvernement. Si tout est encore comme avant,
c'est la faute
au gouvernement. Si nos enfants ne sont pas charmants,
c'est la faute
au gouvernement. Si les gens ne sont pas contents,
c'est la faute
au gouvernement. Si on chante le changement,
c'est la faute au gouvernement.
Vous écoutiez « C'est la faute au gouvernement » des Pathos. Et je suis à présent avec Anne-Sophie Gravel, chroniqueuse pour le Média Pivot notamment et formée en études féministes et culturelles ainsi qu'en criminologie. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui pour revenir sur l'article que vous avez publié dans le Média Pivot intitulé « Repenser le traitement médiatique des féminicides » dans lequel vous vous interrogez sur les mots qu'on pose sur les femmes qui sont assassinées. Le point de départ de votre article, c'est le meurtre en janvier de Chloé Lauzon-Rivard, le premier féminicide de l'année au Québec. En quoi ça a déclenché votre envie d'écrire un article sur le sujet ?
Oui, voilà, c'est ça, vous le disiez, Chloé Lauzon-Rivard, ben, c'est une jeune femme de 29 ans qui a été assassinée par son conjoint quelques jours après le nouvel an, là, en 2024. Et moi, ça m'a marqué parce que, en plus d'être le premier féminicide de l'année, ben, j'ai vu dans plusieurs articles qui couvraient l'affaire, dans les premiers articles, qu'on disait d'elle qu'elle était une femme sans histoire. Puis, je comprends que c'est une expression qui est employée, là, sans malice, juste pour dire qu'elle n'était pas connue du milieu judiciaire, par exemple, mais il reste que c'est une expression qui m'a choquée parce qu'elle peut donner l'impression d'une femme un peu sans saveur et finalement dont le meurtre est le seul événement digne de mention dans son parcours de vie. Alors, je me suis dit, on a du travail à faire, au moins une réflexion à faire sur la manière dont on couvre les féminicides dans la sphère médiatique.
On va revenir sur toutes ces expressions, mais avant ça, vous dites que c'est un enjeu qui résonne fort en vous. Est-ce que c'est la sensibilité à un sujet qui vous pousse en général à écrire dessus?
Oui, certainement, surtout quand on fait de la chronique. Je pense qu'il faut, faut avoir à cœur ce dont on parle. En ce qui concerne les féminicides, c'est sûr que ça vient me chercher, entre autres, bien sûr, parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'ai été et je suis encore une fan de séries criminelles, comme plusieurs personnes. Mais un jour, j'ai réalisé que, en fait, finalement, c'était presque tout le temps des femmes, les victimes. Mm-hmm. Et je crois que c'est l'actrice Jodie Foster qui disait récemment en entrevue que les femmes peuvent avoir, en tant que téléspectatrices, un rapport différent à ce genre de série-là parce que finalement, elles ont plus de chances de se retrouver dans le rôle de la victime. Mm-hmm. Alors, c'est certain que, moi, les féminicides, ça vient me chercher et je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est pas encore réglé, clairement. Alors, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en parle.
Très bien. Eh bien, c'est fait aujourd'hui. On revient à la base. C'est quoi un féminicide? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on ne parle pas de meurtre?
Oui, en fait, un féminicide, c'est le meurtre d'une femme, un peu comme on pourrait dire homicide. Mais pourquoi on ne parle pas de meurtre? C'est parce que on considère que dans la société actuelle dans laquelle on vit, un féminicide, ce sont des femmes qui ont été assassinées parce qu'elles sont des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont été assassinées par une démarche d'avoir un contrôle sur elles. Mm-hmm. Et je tiens à dire que c'est pas nécessairement des meurtres conjugaux, bien que c'est très souvent ça, mais un féminicide, ça peut aussi être perpétré par un inconnu, par un père. Ça peut aussi c'est aussi un terme qu'il faudrait utiliser plus pour parler, par exemple, des assassinats des femmes autochtones. Mm-hmm. Donc, ce ne sont pas nécessairement leurs conjoints, mais ce sont des femmes qui ont été tuées par contrôle.
Mm-hmm. Le terme de féminicide, il est progressivement rentré dans le langage commun.
Oui.
Comme vous le dites, il est souvent utilisé pour décrire un meurtre conjugal, mais c'est un manquement, en fait, qui cache une réalité qui est plus complexe que ça.
Exactement. Et puis, il faut dire que c'est assez récent là, qu'on utilise le terme féminicide, en tout cas de manière aussi répandue. Donc, on a longtemps utilisé des expressions, par exemple, comme crime passionnel ou amour fou. Ce sont des expressions qui laissent croire au point culminant d'une histoire d'amour, alors que, comme je le disais, c'est une histoire de contrôle. Alors, maintenant, c'est bien qu'on utilise de plus en plus le terme féminicide. On voit souvent aussi ces histoires de féminicides qui sont classés dans la section faits divers. Pour moi, il faut faire attention aussi avec ce classement-là parce que comme il y a une récurrence dans les contextes, dans les motifs et dans la violence disproportionnée, ce ne sont pas des faits divers. Des féminicides, il y en a toujours eu. Hein. Il y a peut-être eu un pic pendant la pandémie, mais c'est surtout parce qu'en se mettant à les désigner correctement, on s'est mis collectivement à les assembler et donc à les voir non plus comme des faits isolés, mais comme un ensemble.
Les meurtres, ces meurtres-là, ces féminicides surviennent souvent dans la sphère privée. Et là, vous expliquez justement que c'est un problème de les voir d'un point de vue intime parce que c'est vraiment quelque chose de global et sociétal.
Oui, donc c'est ça. L'idée, c'est de ne pas invisibiliser non plus les autres cas de féminicide parce que ça peut même prendre place, par exemple, dans les appareils d'État, par exemple en prison, à l'hôpital, par négligence des fois des personnes qui sont en place. Donc, il ne faut pas non plus invisibiliser ces personnes-là en faisant de féminicide un synonyme de meurtre conjugal. Donc, il faut vraiment voir là l'élimination d'une femme globalement. Mais c'est certain que ça arrive plus souvent en contexte conjugal là, quand les femmes veulent quitter leur conjoint. Et ça aussi, il faut vraiment s'y pencher.
On a parlé de ce terme de féminicide qui commence quand même à gagner du terrain dans la sphère publique. Est-ce que vous avez l'impression que les consciences changent progressivement et commencent à comprendre le fait que les féminicides sont quelque chose de sociétal?
Je pense que oui, je pense, et c'est le cas pour plusieurs enjeux de société, que nommer les choses adéquatement, c'est le point de départ pour une vraie réflexion qui mènera, espérons-le, à un changement. Et en tant que journaliste, c'est un pouvoir que nous avons. Les mots, ce sont nos outils de travail. Alors, c'est certain qu'on n'a pas nécessairement la même latitude qu'on soit dans la chronique ou dans le reportage, mais d'utiliser les bons termes, je pense que ça peut instiguer dans l'imaginaire collectif une réelle réflexion. Et c'est ce qu'on voit, je pense, depuis quelques années en ce qui concerne les féminicides. Donc, il y a quand même un optimisme à avoir de ce côté-là, mais c'est certain que les actions restent à prendre.
Mmh. À partir de là, vous avez donc souhaité interroger la couverture médiatique qu'il est faite des féminicides. Est-ce que le traitement du cas de Chloé Lauzon-Rivard, que vous prenez un peu pour exemple, peut être retranscrit à l'ensemble des cas de féminicides?
Ben, pas à l'ensemble, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Par exemple, le fait de dire que c'est une femme sans histoire, on va souvent l'entendre. Je pense, entre autres, j'en parlais dans mon article, au cas de Catherine Daviau, qui a été assassinée en 2008. On disait la même chose d'elle, que c'était une femme sans histoire. Et l'idée, c'est de se dire que finalement, toutes les femmes ont des histoires, toutes les personnes ont des histoires. Alors, sans dire qu'on peut appliquer le cas de Chloé Lauzon-Rivard à toutes, je pense qu'il y a des points de convergence dans beaucoup d'histoires de féminicide dont on peut tirer des conclusions.
Et justement, est-ce que vous auriez d'autres exemples d'expressions régulièrement utilisées dans les médias pour décrire les féminicides et qui peuvent poser problème?
Oui, ben c'est ça. Je parlais plutôt de crimes passionnels. Il y a amour fou qu'on voit moins souvent, mais quand même. Personnellement, je trouve ça toujours un peu particulier quand on décrit l'ex-conjoint ou le conjoint qui a assassiné comme son ami de cœur ou qu'on essaie un peu de romantiser la fin de cette histoire-là. Donc, il faut faire attention et s'écarter de tout ce registre de langue de la romance.
On voit ici vraiment la signification réelle des mots et des enjeux qu'ils portent en eux, comme vous avez commencé à nous l'expliquer. Est-ce que vous pensez que les médias négligent trop l'importance des mots qu'ils emploient ou au contraire, est-ce qu'ils ont conscience de la signification des expressions qu'ils utilisent?
Bon, c'est certain que ça dépend de chaque média. En général, journalistes comme n'importe qui, on doit prendre davantage conscience de l'importance des mots. Ce ne sont pas des fioritures. Et ça fait longtemps qu'on sait que le langage transcrit nos rapports de pouvoir. Ça fait longtemps que les autorités en place l'ont compris. C'est pas pour rien qu'au Moyen-Âge, par exemple, on a enlevé plein de noms de métiers au féminin. C'est parce qu'en arrêtant de nommer les choses, on peut les faire disparaître, temporairement du moins. Donc, je pense que collectivement et dans le milieu journalistique, il faut se recentrer quand on écrit un article, quand on rapporte des faits sur les mots qu'on choisit, et ce, autant pour des féminicides que pour, ça peut être des crimes sexuels aussi. Parfois, on va lire des relations sexuelles quand on parle d'inceste commis sur un enfant, par exemple. Alors, juste s'interroger sur le terme, oui, mais relations, il y a une dimension d'échange. Quand on est dans une agression, un crime sexuel commis sur un enfant, il n'y a pas de relation ici. Alors, on peut dire crime sexuel. Juste penser aux mots qu'on choisit, ça a de l'importance, et ça a de l'importance certainement pour les proches des victimes.
Vous parlez des proches des victimes, et tous ces termes justes, est-ce que vous pensez qu'ils auront, quel impact vous pensez qu'ils auront sur le grand public, sur les lecteurs lambda qui lisent ces articles et qui voient des termes appropriés, respectueux? Est-ce que vous pensez que ces mots peuvent changer, en quelque sorte, la société?
Oui, ben, je pense en tout cas qu'on ne perd rien d'essayer. Et ne serait-ce que pour les proches, que voir la personne qu'ils ont perdue et qu'ils adoraient être décrite dans des termes moins galvaudés, je pense que ça peut aussi, eux, les aider dans leur deuil et ça peut aider tout le monde à se faire un portrait plus juste là, dans l'imaginaire collectif.
En tant que journaliste, est-ce qu'il y a d'autres cas où vous mettez du temps à choisir vos mots? Est-ce que ça peut être quelquefois un débat entre vous et vous-même qui peut être compliqué, le choix des mots, le choix des termes?
Constamment. Ouais. En fait, tous les sujets, j'essaie de choisir chaque mot et je me relis en m'assurant que chaque mot est le bon que je veux choisir. Et puis, vous savez, on peut utiliser des dictionnaires de synonymes aussi pour arriver au mot le plus précis possible. Pour moi, c'est un souci. C'est mon intention première quand j'écris, c'est de trouver les mots justes et d'utiliser toutes les nuances que la langue française nous permet.
On parle des médias d'information, mais est-ce que ce travail sur le traitement des féminicides peut être observé ailleurs, dans le divertissement, par exemple?
Oui, tout à fait. Alors, je pense à deux exemples. Premièrement, il y a le balado Synthèse qui revient sur des histoires de féminicides. Et je pense aussi à la série documentaire « Femme, je te tue », qui est portée par Ingrid Falaise et Sarah Bernard. C'est vraiment une série que je recommande. C'est une écoute très difficile, mais c'est une série où, justement, on s'éloigne des reconstitutions mal jouées là, des séries criminelles des années 2000. Là, et puis, on se ressente vraiment sur, oui, comment le meurtre est arrivé, mais qui étaient ces femmes-là? Qui elles laissent dans le deuil? Quel impact a leur départ, finalement? Alors, ce sont des autant le balado dont je parlais que cette série, c'est difficile à écouter. Là. Mais je pense qu'on a le devoir de faire ça parce que ça montre que c'est possible, sans négliger l'aspect factuel, mais de remettre un peu d'empathie dans la manière dont on traite ces histoires.
Et puis d'aborder d'un point de vue féministe, j'imagine, tous ces féminicides, et aussi d'un point de vue de la fiction. On parlait des médias d'information, mais les fictions, les histoires qu'on raconte sont tout aussi importantes dans l'influence des opinions.
Vous avez bien raison.
Eh bien, c'est parfait.
C'est un travail global.
Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour tout ce sujet très intéressant. On peut retrouver votre article intitulé « Repenser le traitement médiatique des féminicides ». Il est disponible sur le site pivot.québec. Merci beaucoup et puis on se voit pour votre prochain article.
Au revoir.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
Machado va mourir. Au fond, c'était à prévoir. Mourir est une habitude qu'il arrive aux gens d'avoir. Demain, ce sera quatre balles. Quatre balles et puis l'oubli. Un tango qui finit mal. La mort, c'est comme la vie. Vivre est une question d'altitude. Et combien la solitude. Méfie-toi de l'habitude. Ça finit toujours mal. Finit toujours mal. J'aurais préféré une larme qui brille dans l'air du soir. Ses mains qui portent le drame jouent aussi de la guitare. C'était peut-être une femme jalouse qui t'a vendu. Mais aujourd'hui c'est ton âme qui court au milieu des rues. Vivre est une question d'altitude. Et combien la solitude. Méfie-toi de l'habitude. Ça finit toujours mal. Toujours mal. Des amours, des parties de cartes jusqu'à l'aube et des mêlées avec une danseuse en carte, des voisins et des étrangers. Machado est tombé. Au fond, c'était à prévoir. Tombé dans la solitude, dans la rue et dans le noir. Vivre est une question d'altitude. Et combien la solitude. Méfie-toi de l'habitude. ça finit toujours mal. Toujours mal.
C'était Tony Machado de Bernard Lavillier. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc et Wilfried Edzoa pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on parle d'entrepreneuriat au féminin, ainsi que des dernières expositions du moment à Montréal. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas surtout que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. On se quitte avec Héra Menard qui interprète Besoin d'un abri. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Besoin d'un abri, d'un petit chez moi. Pas besoin d'un grand logis, d'un grand logis. Un endroit où être moi. Habiter sur un bateau pendant 8 mois, c'est trop. Voguant le long de la côte, comment rester à flot? Me voilà sur la terre ferme, la boussole perdue. Aucun plan dans la tête en l'air. Il est d'autant plus. Et des amis de ceux qu'on aime, de ceux qu'on aime, divan lit inclus. Habiter dans une auto pendant 8 semaines, c'est trop. Cherchant entre l'épaule, coussin ou une épaule. Et un jour. Besoin d'un abri, d'un petit chez moi.
Et oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'ils et qu'elles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
CIBL 101.5, Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent appliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.